La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GingsburgGingras.com/dette.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
7h22, Pierre-Yves, bon matin.
Salut.
Tu veux me parler, j'imagine, de ce texte dans la presse sur les faillites.
Oui, dans la presse, on dit qu'il y a des faillites en récidive au Québec, puis on est le champion des multiples faillites, c'est-à-dire des gens qui font faillite 2, 3, 4 fois au Canada. Mais Sylvain, moi, cet anglais, ils te l'ont déjà dit dans le journal, ils en parlent. Moi, je vais te parler d'un autre angle. C'est pourquoi tu fais faillite dans la vie. Il y a plusieurs raisons, mais il y a beaucoup de préjugés. Bon, évidemment, la première raison qu'on pense toutes, là, c'est la surconsommation. Les gens dépensent trop, mauvaise gestion, manque d'organisation, salaire trop faible par rapport aux dépenses. Puis au Québec, on était chanceux depuis 10-15 ans. Il y a plein de gens qui auraient dû faire faillite dans leur gestion quotidienne, mais puisqu'ils avaient une maison et que la maison prenait de la valeur, ils retournaient à la banque périodiquement, puis la banque leur disait « on va réhypothéquer 80% du gain de valeur, puis on va payer tes dettes ». Donc, il y a des gens que la maison a sauvé leur situation financière. Mais tu sais, pour faire faillite, là, ça prend juste 1 000 et plus de dettes. Pas besoin d'avoir 100 000 ou 30 000, ça dépend de ton revenu. Mais pour faire faillite, il faut que tu aies au moins 1 000 de dettes, puis qu'évidemment, tu n'aies pas d'actifs. Tu peux pas avoir des actifs que si tu vendais, tu n'aurais plus de dettes. Mais bon, première chose, on s'entend sur consommation. Deuxième, tu as un problème aussi de consommation. Et là, on parle alcool, drogue, sexe, peu importe. Si tu passes les 20 semaines à Las Vegas parce que tu as une dépendance, c'est sûr que c'est une raison de faire faillite. On peut la juger, mais c'est une pathologie quand même. Tu sais, je ne vais pas juger quelqu'un qui est malade, mais je ne vais pas juger quelqu'un qui est alcoolique ou qui est cocaïnomane et que ça l'empêche de travailler. Tu sais. Troisième point, le travail autonome. Et ça, c'est probablement la faillite que je vois le plus souvent ou les problèmes financiers que je vois le plus souvent. Tu décides de devenir travailleur autonome. Puis là, t'es pas habitué de payer de l'impôt parce que tu gagnais 30-40 000 piastres, ça se prenait sur ta paye, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, tu te dis, je me lance. Puis là, tu te rends compte, hey, TPS, TVQ, j'ai de l'argent dans mes poches, mais c'est pas à moi, faut que je la remette. Puis là, tu viens pour faire tes acomptes provisionnels, puis tu te sers pas, mais tu payes bien plus d'impôts maintenant, tu gagnes plus de revenus. Et là, par exemple, si vous gagnez 50 000 comme travailleur autonome, vous avez à peu près 10 000 piastres d'impôts à payer, plus le RRQ par employeur et employé. Donc, tu fais pas tes acomptes, tu mets pas l'argent de côté parce que t'as peur, tu roules, tu t'en rends pas compte. Puis là, finalement, l'année suivante, ton salaire augmente, tu passes à 75 000. Donc là, ton 10 000 d'impôts devient 20 000 d'impôts à peu près. Et là, t'as beau avoir augmenté ton salaire de 50%, ton impôt double en dollars. Ben, faut que tu le prévois. Mais là, le problème, c'est que t'as déjà pris un arrangement avec le gouvernement parce que t'avais pas payé l'an passé, t'avais pas prévu. Puis là, cette année, t'es en train de payer les impôts de l'année passée. Puis l'année prochaine, tu vas payer les impôts de cette année, mais ils sont encore plus élevés. C'est un cycle d'endettement, puis c'est fini. Ça arrive souvent. Quatrième raison, évidemment, l'entrepreneur non prospère. Tu sais, celui que on n'aimera personne, mais l'idée est ordinaire dès le départ. Mauvais produit, mauvaise idée, mauvais modèle d'affaires. T'es pas un bon gestionnaire, ou peu importe. Et là, tu fais faillite, mais c'est ton entreprise qui fait faillite. Mais en même temps, est-ce qu'on peut en vouloir aux gens d'essayer de créer de l'emploi puis d'essayer de se faire une vie?
Ben ouais, moi là-dedans, là, puis d'autant plus qu'on connaît beaucoup d'entrepreneurs à succès qui ont fait une ou deux faillites avant.
Oui.
Parce qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché, mais ils ont appris de leurs erreurs. Alors ça, évidemment, on peut. Il y a eu une erreur en quelque part, mais comme tu disais tantôt, il y a des affaires qu'il faut pas juger. Là, t'sais.
C'est ça, puis tu peux. Qu'une entreprise en faillite n'est pas une personne en faillite, puis là, ça choque des gens, mais si j'ai une entreprise qui est une personne morale et je n'ai pas donné d'actifs personnels en garantie, parce que la banque jugeait que mon modèle d'affaires était assez fort, mais si l'entreprise fait faillite, je n'ai pas été liquidé moi-même. C'est la personne morale qui fait faillite, tu sais. Ce n'est pas la personne qui a lancé l'entreprise. Et parce que c'est ça, une société par action.
Ouais, ouais.
Tu sais, il y a une espèce de voile corporatif qui te protège, puis c'est correct. Parce que sinon, il y a personne qui va prendre une entreprise risquée ou se lancer dans une entreprise risquée s'il n'y a pas possibilité de s'en sortir. Et la dernière raison, souvent, c'est le changement de vie. Tu sais, demain matin, je prends un cancer, moi, je vide mes REER, puis c'est ça qui va arriver, là. Je vais vivre avec mes REER, tu sais. Mais il y a des gens qui ont passé de REER, qui ont pas d'assurance maladie grave. Et là, on parle de demander de plus de chômage pour les gens malades.
Ouais.
Et là, c'est une question. Est-ce que c'est le chômage doit financer la maladie ou le chômage doit financer la perte d'emploi? La séparation. Beaucoup de gens se séparent.
Juste sur la maladie, c'est parce qu'on a fait Moisson Québec la semaine dernière. Là, je fais une activité pour ramasser de l'argent pour eux. On a ramassé 36 000. Puis à chaque fois que je fais ça, je fais un genre de plaidoyer. Puis ça rejoint un peu ce que tu viens de dire aussi. Là. Le monde, là, il y en a tout le temps qui vont dire « Ouais, mais ce monde-là, là, qui vont chercher des paniers de Noël puis tout. » C'est parce qu'ils travaillent pas assez fort, devraient en faire un peu plus, etc. Il y a Est-ce que dans tous ceux qui vont chercher des paniers, il y en a qui pourraient en faire plus? Ben oui, la réponse est oui, évidemment, là. Mais si vous saviez parler aux gens, puis Hélène de Moisson Québec nous le racontait, dans les dernières années, le nombre de personnes qui se ramassent à aller chercher des paniers, comme ça, dans des Moissons Québec de ce monde, c'est des gens malades. Ils ont pogné un cancer, ils étaient pas bien assurés, parce que bon, des fois, ça coûte cher. Au bureau, c'est pas tout le monde qui l'a, l'assurance santé, puis ils se retrouvent avec... Ça fait un an, ça fait un an et demi qu'on n'a pas travaillé. Quand les enfants tombent malades aussi, souvent, il y a un des deux parents qui arrête de travailler, tout ça. Ça, on peut pas juger le monde là-dessus.
Non, puis l'autre affaire, c'est que c'est pas tout le monde qui peut prévoir. Tu sais, moi, je parle de planification souvent. Il y a des gens qui sont dans une situation trop précaire pour se payer des assurances maladies graves, assurances invalidité, puis autres assurances, tu sais. Et le panier aussi, oublie pas que, tu sais, j'aime mieux qu'une personne aille chercher un panier pour s'en sortir pendant une période temporaire, que quelqu'un aille chercher un panier. Que quelqu'un vive sur la dépendance de l'État à vie parce que il veut pas travailler tout le monde. Il faut faire attention. Là, je marche sur des œufs. Attention, il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui peuvent moins. Bon, mais ce que je te dis, c'est moi, c'est un moyen temporaire que je trouve qui est correct.
Absolument, parce qu'on est des funambules. Je le rappelle aux gens, on pense qu'on est bien solide à terre, mais un petit coup de vent, des fois, la santé, une mauvaise nouvelle, bang, on vient de tomber. Il faut pas trop juger ça.
Puis tu peux marcher sur la corde bien droit, mais tu sais pas, mais il y a quelqu'un qui a un ciseau à l'autre bout.
Oui.
Puis qui coupe la corde.
Oui.
La séparation, c'est un autre bon exemple. Il y a des gens qui se séparent, puis que là, ils veulent pas changer de mode de vie ou ils sont pas ajustés tout de suite. Là, chacun garde une maison, chacun garde un appart, il y a pas de colocation, puis c'est normal, on se dit, on est une famille, c'est bon. Puis là, oups, les dépenses restent les mêmes, là. Puis là, t'es rendu à un pour payer au lieu de deux. Puis là, le receveur de pension, des fois, il n'a pas assez. Puis le payeur se dit, hey, moi, je paye avec du net, basé sur mon évaluation brute. Fait que la personne ne change pas son mode de vie. Puis là, focus sur le fait qu'il y a une pension, puis c'est ça la raison de tous ces malheurs, mais il y a un changement de mode de vie à faire aussi. Tu sais, donc, il y a plusieurs raisons qui font qu'on fait faillite. Donc, au lieu de là, je dis que les gens qui font faillite plusieurs fois... C'est sûr qu'il y en a qui ont besoin d'être gérés, puis qui sont incapables de gérer, puis qui font pas leurs impôts, puis qu'ils sont pas capables de gérer leur compte, puis ils y arriveront jamais, parce qu'on leur a pas appris, puis ils sont pas capables de se prendre en main. Mais il y a beaucoup d'autres raisons.
Tu veux me parler, au lendemain du gala des Oliviers, tu veux me parler de la job d'humoriste. Les gens vont dire, hey, eux autres, ils feront pas faillite. Là, tu viens de nous décrire toutes les raisons pour lesquelles on peut avoir de la misère. Eux autres, sont-tu bien, sont-tu riches? Hey, si Mariana Madzan gagne 500 000 par année, imaginez les autres. Ah ben, je veux rien enlever à elle. Elle est bonne, mais elle n'est pas dans le top, là. Ben, mettons, Louis-José Houde, Martin Mann. Fait qu'imaginez ça. Sauf que, tu vas nous dire ce matin qu'être humoriste, ça peut être risqué.
Ben, c'est risqué. En fait, l'humoriste, là, c'est ce que j'appelle. Es-tu un amateur de football, Sylvain?
Ben oui, je suis un fan des Bills, en
passant. Bon, peux-tu nous décrire c'est quoi un Hail Mary?
Ben, mettons qu'il reste plus de temps, là, au tableau, là. Puis là, on a le ballon. Puis on n'a pas le choix, on pourra pas se rendre dans la zone début avec 5, 6, 7 jeux. Le quart arrière se recule, il envoie tout son monde dans la zone début, puis il fait une pause, là, puis en passant, ça marche jamais. Il ferme les yeux, il envoie le ballon dans les airs, puis si jamais t'as un gros ailier rapproché qui réussit à sauter haut puis capter le ballon, mais en général, ça marche pas. C'est ça, Hail Mary, c'est un geste désespéré quand le quart arrière garoche le ballon dans la zone début à la fin de la game.
Donc, les chances de réussir sont faibles.
Oh,
puis en humour, moi, il y a ça, t'as l'humour écriture puis humoristique dans le point être humoriste, mais au total, les deux, t'as une vingtaine de diplômés par année. Fait que fais le calcul, il y a eu plus de 600 diplômés dans l'histoire d'école d'humour au Québec.
C'est bon.
Tu comprends où je m'en vais?
Oui.
Le programme coûte 15 000 $ pour 2 ans, donc tu renonces à du travail pendant ce temps-là. Donc, c'est vraiment statistiquement... Tu sais, les gens regardent Louis-José Houde puis Martin Matt puis ils sont millionnaires, oui. Mais pour un Louis-José Houde puis un Martin Matt, t'as un gars inconnu qui doit s'appeler Patrick Leduc quelque part qui tourne des burgers ailleurs. Là, les barrières à l'entrée sont faibles parce que tu peux aller dans un bar faire des numéros d'humour. Tu peux t'inscrire aux ateliers de l'école d'humour le soir puis pour 300-400$ faire des cours le soir. Mais là, il y a plein de concurrence, les autodidactes. Les conférenciers, tu sais, comme Madame Lompré, là, qui dit, okay, moi, je suis comme humoriste dans ma conférence, mais je suis pas considéré humoriste. Il y a des barrières à l'entrée, il y a des gens qui concurrencent ton marché. Mais ce qui est fascinant, c'est les salles au Québec. Ce que les gens oublient souvent, c'est que t'as beau être humoriste, t'as beau être drôle, t'as beau avoir un public. Après ça, il y a les salles. Les salles décident qui rentrent dedans. Fait que là, t'es en concurrence avec les chanteurs, le théâtre, les humoristes. Puis là, est-ce que le sale va avoir une valeur sûre? Ou va avoir un humoriste de la relève pour pas cher, mais risquer de pas remplir la salle? Donc, tu veux, oui, l'humoriste de la relève de l'année, mais tu veux-tu 10 humoristes de la relève? Et si tu fais pas ta place dans les deux, trois premières années où t'as fini ton cours, ben là, tu tombes comme dans l'oubli. T'es un humoriste qui est pas percé assez. Pis, là, si tu dis, hey, je suis diplômé d'il y a 10 ans de l'école de l'humour, là, on me dit, ouais, il y a 10 ans, mais il y en a d'autres après. Donc, t'es comme filtré. C'est super tough, tu sais. Fait que dans les humoristes, c'est comme dans le reste de la vie, il y a le 1% millionnaire.
C'est ça. C'est
mais il y a du monde qui font des spectacles pour 20$ par soir avec une bière, tu sais, en bonus dans le bar, là.
Et c'est un métier où quand tu commences, moi, je l'ai un peu vécu parce que, ben, j'ai renoncé. On avait commencé une petite carrière d'humoriste amateur.
Pour vrai? Hey, je savais pas ça.
Je savais pas ça. Ben oui. Ben
non.
J'avais un duo avec Laurent Paquin, moi.
Hein?
Ben oui, ça s'appelait
Les
Gastons.
Je savais pas ça.
Ça s'appelait Les Gastons.
Les Gastons.
Ouais, on a été pendant au moins 2-3 ans. Gros max, mais il y avait le cégep là-dedans, les cours, on n'était pas temps plein, là. Et à un moment donné, puis je veux vraiment le raconter aux gens, parce qu'aujourd'hui, oui, ils sont au top, ils font de l'argent, mais quand tu commences ce métier-là, nous autres, on a commencé au Saguenay, puis là, on devait poursuivre à Montréal. Et on s'était loué un appart pour être un coloc, et je sais dans quoi Laurent a commencé, parce que je l'ai vu, l'appartement. Moi, j'ai renoncé, j'ai une job à radio, puis je garde 30 000 par année, en Waygo, puis j'aimais la radio, ça m'a bien servi. Mais j'ai vu les sacrifices que Laurent a fait, parce que je l'ai visité, l'appart. Je devais rester là. Je veux pas, là, exagérer, Laurent, là, il était pas dans la rue, mais c'était vraiment de quoi de modeste. Regarde, on avait pas une scène, et je sais qu'il a travaillé fort pour écrire, parce que, là, tu dis, ouais, mais tu trouves une autre job. M'en donner, si tu veux réussir en humour, là.
Ça prend pas de plan B, hein.
Faut que tu t'enfermes chez vous, faut que t'écrives, faut que tu, c'est bon. Et lui, il l'a fait, là. C'est pendant un bon bout de temps. Puis là, aujourd'hui, il est là et c'est mérité.
Mais toi, Sylvain, tu fais de l'école d'humour?
Non.
Mais Laurent l'a fait.
Exact. Lui est allé, il a fait l'école, après ça, il a fait Juste pour rire, tout ça. Mais ça a été long. On y pense pas aujourd'hui. On le voit quand ils sont rendus au top de la montagne. Mais les petites tournées de bar, là, qu'ils font, là, pendant des années dans des salles où c'est pas facile. L'écriture, l'école, ça, c'est vraiment pas payant pendant un bon bout.
C'est tough. Mais là, t'es dans un bar, les gars jasent, là. Hey, moi, j'ai vu des humoristes des fois. Tu sais, t'es dans une espèce de souper de compagnie où, puis là, il y a un humoriste qui vient faire un numéro 20 minutes, puis personne l'écoute, tout le monde mange, puis ça, c'est tough. Puis écoute, moi, j'ai vu Martin Matt quand j'étais au cégep.
Ouais.
Il y avait les Jeudis de l'humour chez Maurice, à Saint-Lazare. OK.
Okay.
Puis je pense que pour une coupe de piastres, t'avais Martin Matt, les Jeudis de l'humour, plus une grosse bière. Tu sais, c'est...
c'est un duo, là. Martin Matt, mais la grosse bière aussi, parce que juste Martin Matt, t'es pas sûr de remplir.
Non, mais quand ça même, la grosse pensé? Bière. As-tu mais pensé, oui. Martin Matt, là? T'sais, Lou, écoute, j'en ai une bonne pour toi là-dessus. J'étais à HEC Montréal, il y avait un comité étudiant à côté de moi, puis là, la fille Alexandra vient me voir, elle dit, Pierre-Yves, pour notre gala d'étudiants, là, il y a mon humoriste de la relève que je trippe dessus, là. Là, elle me dit, il s'appelle Louis-José. J'ai dit, c'est qui ça, Louis-José? Puis là, j'ai vraiment dit, peux-tu bien me dire quel genre de parents appellent leur enfant Louis-José? Je la niaisais, tu sais. Puis j'ai dit, non, tu vas voir, il est bon. Là, il arrive sur scène, puis tu sais, moi, j'étais en nomination pour un prix étudiant, donc tout le monde se foutait, tu sais. Puis là, j'étais là, j'ai dit, hey, il est drôle, lui. Mais tu sais, on a dû le payer, je sais pas, moi, 900$ pour animer un gala, tu sais. Je peux pas dire qu'il doit être le même prix aujourd'hui à la disque.
Non, d'après moi, c'est un 30-35 000.
Mais tu sais, c'est pas la même réalité, mais si tu vois comment il commence bas. Tu sais, animer un gala de remise de prix étudiant à HEC Montréal, faut que t'aies l'humilité à la bonne place, là.
Puis un peu comme dans tout le milieu artistique au Québec, c'est ça, on regarde ceux qui sont au top, là, dans la chanson ou dans d'autres domaines, même les acteurs, actrices, t'en as qui font des gros, gros cachets, puis les Patrick Huard, Rémi Girard, Michel Côté, mais on va les nommer vite, là. Puis à un moment donné, on va tomber à ceux pour qui c'est un peu plus difficile.
Puis que t'as les rôles secondaires, puis on les oublie, tu sais, ils passent dans notre vie, là, on les voit, mais on peut pas donner leur nom. On les a vus pendant 20 ans, mais on sait même pas leur nom.
Puis souvent, ils travaillent beaucoup, mais ils peuvent être, on me l'a déjà raconté, un an et demi, des fois, pas parce qu'ils sont pas bons, pas bonnes. À un moment donné, ça arrive qu'il y a moins de contrats, on les voit moins à l'écran, tout.
Le casting.
C'est un stress un peu, là, c'est pas...
Puis l'autre point intéressant, c'est de dire, tu sais, mettons, tu fais une soirée d'humour par semaine dans un bar, tu réussis à te plugger, là, puis tu fais 50$, là. Mais là, tu sais, c'est pas comme un travailleur qui fait 20$ de l'heure, mais qui fait 20$ de l'heure pendant 40 heures. Donc, l'humoriste fait pas grand-chose, l'acteur non plus, donc... Chapeau à ceux qui sont all-in dans leur carrière comme ça, c'est pas facile.
Merci Pierre-Yves.
Salut.
Salut bien, 7h36, OFM 93.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GingsburgGingras.com/dette